les ressources naturelles en distribuant pas les process écologiques et aussi qui protègent la biodiversité. Ensuite, ils respectent les originalités sociales et culturelles d'une commune locale qui reçoit les touristes, qui garde sa tradition et qui contribue à une compréhension interculturelle. Également, tourisme durable contribue en fait à la faisabilité économique, c'est-à-dire qu'il favorise une répartition des bénéfices qui est juste, qui est répartie surtout entre les habitants locaux, entre les acteurs locaux, pour diminuer la pauvreté. Ce tourisme durable, il est basé sur la déclaration du développement durable de Cape Town qui a été créée en 2002 et qui demande la responsabilité des acteurs en trois niveaux, social, économique et naturel.
Alors, en ce moment, c'est quand même la saison forte là qui va bientôt commencer. C'est le moment où il y a 60% du tourisme annuel qui arrive en région PACA. En région PACA, par an, on a à peu près 34 millions de touristes et qui font à peu près 10 milliards d'euros de générer. En quoi c'est important justement d'avoir du tourisme durable en région PACA ?
C'est très très important. Il faut savoir que la France représente un des trois pays le plus visités au monde. Et la région PACA, c'est la première destination touristique en France. Quand on compare ça avec le fait que l'Organisation touristique mondiale prévoit en 2020 1,5 milliard de touristes qui représentent en fait 21% d'habitants total de la planète Terre, c'est nécessaire de prévoir des mesures, des règles qui vont diminuer les conséquences négatives du tourisme, surtout à la nature. Parce que je vais vous donner juste quelques données pour mieux visualiser ces conséquences négatives. C'est estimé qu'un touriste par jour dépense 440 litres de l'eau douce ou par exemple 4 ou 5 kilos de bois pour se chauffer si on parle de tourisme en hiver. Également,
ouais, l'eau douce, c'est plus les douches l'été, c'est ça ?
Oui, les douches, l'eau pour
ouais,
boire,
pour la cuisine.
Pour la cuisine, pour camping. Ouais. Ensuite, les bateaux touristiques, les grands bateaux touristiques qui font des croisiéristes, ouais. Dépensent à peu près, ou font à peu près 700 tonnes de déchets par an. Et tourisme représente 60% du trafic aérien et qui est en fait le ressource principale de l'effet de serre.
Ouais, qui cause tout ce réchauffement climatique
tout
qu'on
à
a
fait.
Actuellement.
Tout à fait.
Et donc, pour toi, est-ce que c'est important de voir le nombre de personnes maximum qui peuvent venir sur les sites touristiques ? Par exemple, je sais que tu connais bien les îles du Frioul. À l'année, il y a 40 habitants et avec les touristes, tu me disais que ça a explosé.
Oui, il faut savoir que les îles du Frioul sont un parc maritime, donc une zone protégée juste en face de la ville de Marseille, de son agglomération. Par an, elle reçoit 400 000 touristes, ce qui est énorme parce qu'en fait, ces 400 000 touristes, la majorité d'eux vient en été, pendant la saison estivale. Et il faut savoir qu'il n'y a que 40 habitants à peu près et que la surface des îles, c'est à peu près 200 hectares. Il y a une énorme pression. Vis-à-vis des touristes.
Et dans ce cas-là, alors comment il faut faire justement pour bien gérer ces îles, pour faire du tourisme durable sur les îles du Frioul, sachant tout le nombre de personnes qui arrivent d'un coup comme ça, c'est fou.
Le plus important est de les sensibiliser Parce que les personnes qui viennent, qui prennent la navette pour aller au Frioul ne sont pas forcément au courant qu'il s'agit d'une zone protégée. Ils ont des informations qui sont bien affichées. Mais bon, si on part en vacances, on regarde pas forcément ce qui est écrit. Donc ouais. Là, sur place, il faut organiser des activités qui contribuent à la sensibilisation, qui sont plus qu'un simple affichage. Par exemple, ça fait depuis des années que l'Office de la mer organise la campagne Ma plage, moi je la respecte. Elle se déroule sur les différentes plages de Marseille et également à la plage Saint-Estève du Frioul, qui est la plage la plus fréquentée par des touristes et des visiteurs, mais aussi par des Marseillais. Donc là, on essaye de parler de la flore et de
ça,
la faune.
Ça consiste en des discussions, c'est ça, avec les gens qui sont sur la plage?
Tout à fait. Il s'agit de la discussion pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils pensent de s'ils sont au courant en fait de la protection, des façons de protection de loup, pourquoi ce loup il est protégé, et ensuite on essaye de leur donner des conseils pour s'occuper encore mieux de loup et pour laisser la plage propre après avoir terminé sa baignade pendant la journée en été.
Et vous avez l'impression que les gens sont réceptifs à ce genre d'opération de sensibilisation comme ça?
Oui, la majorité d'eux est à l'écoute. Ils nous donnent même des conseils. Après, c'est pas évident si on va continuer si on va commencer à faire ce qu'on a dit, mais quand même je crois que oui, il y a pas mal de gens qui restent réceptifs et qui respectent, qui en fait le plus important est de les faire comprendre, parce que la majorité d'eux nous a dit oui, il y a plein de gens qui nous disent, ou plein d'associations qui nous disent il faut faire ça ou il faut pas faire ça, mais nous on a besoin de comprendre pourquoi c'est important, par exemple de ne pas jeter un mégot de cigarettes dans la sable, parce qu'ils ne savaient pas qu'avec le vent Mistral, qui est très souvent ici, surtout aux îles du Frioul, le mégot part facilement pendant la soirée ou pendant la journée dans l'eau, et un seul mégot pourra polluer à peu près 500 litres de l'eau. Donc,
ouais, c'est presque l'équivalent d'une piscine d'enfants, c'est
tout
énorme, un simple petit mégot minuscule.
Donc, c'est
surtout qu'en plus les enfants jouent dans le sable, donc c'est dangereux aussi ça,
oui.
le contact des enfants avec le sable. Oui. Alors, on vient de parler un peu de la capacité des sites touristiques à recevoir beaucoup de monde sur les plages. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'inquiéter du type de tourisme qu'on reçoit, de leur sensibilisation? Par exemple, de plus en plus, on a en région PACA un tourisme qui est plutôt aisé parce que ça permet à la ville d'avoir des moyens et ça permet à la région d'avoir plus de moyens, puisque ça donne de l'argent à la région. Mais comment on fait pour les personnes qui ne peuvent pas en bénéficier, les personnes qui ont moins la chance de pouvoir, qui sont plus moins aisées et qui ont moins la chance de pouvoir justement profiter de tout ça. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus, sur la manière dont on peut permettre aux gens de pouvoir profiter à tous de manière équitable?
Déjà, il faut savoir qu'il y a plein de lieux en France qui ne sont pas forcément touristiquement exploités et où les gens peuvent aller pour profiter de leurs vacances pour pas très cher. Également, ici à Marseille, on a un environnement extrêmement riche. Les Calanques, les îles du Frioul, les montagnes qui nous entourent. Donc, c'est assez facile de partir et de comprendre l'importance de l'environnement de proximité. Et en ce qui concerne la répartition des bénéfices justement de tourisme, il est très très important de le partager entre les habitants locaux, en favorisant les emplois locaux et en essayant de diminuer la pauvreté et en essayant de pérenniser justement l'emploi avec le développement touristique.
Oui, bah oui, justement, mais exactement, tu parles d'emploi et on sait qu'il y a 7,2% de l'emploi salarié régional qui est consacré au tourisme et donc ça fait à peu près 150 000 emplois, c'est quand même très important, c'est bien au-dessus du nombre d'emplois par exemple dans la construction qui est que de 6%. Alors, en général, ces emplois, pour l'instant, ne sont pas vraiment tournés développement durable. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour les orienter plus vers le développement durable? Par exemple, aujourd'hui, moi, j'avais invité l'Office du tourisme à participer à cette émission et ils n'ont pas pu venir parce qu'ils trouvaient qu'ils ne faisaient pas assez de choses justement en tourisme durable. Donc, comment faire pour permettre plus...
Je crois qu'une coproduction avec des acteurs locaux, par exemple avec des associations qui ont beaucoup d'idées, qui déjà essayent de développer un tourisme juste à côté en proposant des activités comme par exemple des balades en barquette, au Vieux-Port, etc. pourra contribuer au développement du tourisme durable à Marseille. Donc là, on pourra envisager peut-être le développement des emplois indirects qui à la fin... contribue à la pérennisation des emplois à PACA, parce qu'il faut savoir que tourisme, il a un caractère saisonnier. Et la région PACA est le plus influencée en été, donc la majorité d'emplois se font en été. Et après, il faut savoir, c'est aux institutions de voir comment mieux répartir le flux touristique qui pourrait également contribuer à une pression qui est moins forte si elle était étalée en toute année.
Oui, voilà.
Écoutez Dialogue et voir autrement.
De retour sur l'émission Demain la Terre, donc avec Marina sur le tourisme durable. Alors, on était en train de parler de la question des emplois et tu me disais que toi aussi, ce qui te marquait, c'était que, par exemple, dans les pays du tiers-monde qui sont un peu moins aisés, on se rend compte que c'est souvent les autochtones qui sont les plus mal payés dans cette histoire et que finalement, ceux qui réussissent à avoir les postes les mieux payés, c'est souvent des étrangers qui viennent dans le pays. Alors, c'est quelque chose qui te marque, ça ?
Oui, tout à fait, parce que c'est un tourisme des masses. Ce sont des touristes qui partent dans les hôtels, qui sont en fait des sociétés multinationales. Et là, justement, pour assurer un bon standard de l'hébergement, de la nourriture auquel nous avons l'habitude chez soi, les hôtels ou les tour opérateurs préfèrent plutôt envisager des postes pour les étrangers parce qu'ils sont sûrs de leurs qualifications et de leurs compétences. Par contre, on remarque des enclaves, en fait, des hôtels, des territoires très très riches avec des hôtels de luxe, avec des boutiques, avec des prix très très élevés. Et de l'autre côté, juste à la proximité, on voit des territoires très très pauvres. Avec des habitants locaux qui n'ont aucun bénéfice du tourisme qui se développe sur leur territoire et quand même leur territoire, leur lieu d'habitation est exploité. Donc c'est là où il faut mieux réfléchir et il y a plein d'initiatives, surtout par des associations et d'organisations qui essayent de développer le tourisme social et solidaire, qui essayent de mieux impliquer les habitants locaux, d'offrir un hébergement chez l'habitant et en même temps en étant hébergé chez un habitant, on pourrait bien bénéficier de sa connaissance de lieu, de ses recommandations, d'un contact direct avec une autre culture, de la mieux comprendre et en fait de revenir chez soi, à la maison avec
plein de belles images.
Tout à fait.
Oui, c'est vrai que quand on part finalement faire du tourisme, c'est quand même dommage de retrouver ce qu'on a à la maison. Justement, ça pose un peu la question de la culture, parce que, enfin, ce que tu disais, c'est que avec le fait qu'on a d'arrivées de touristes massifs, on a aussi souvent des changements de culture locale, puisque les locaux essayent de s'adapter au tourisme qui arrive, donc en mettant en place, je sais pas moi, en raccourcissant leurs rituels, etc., pour que ça s'adapte au temps demandé par les touristes, et tout ça, ça crée quand même une standardisation finalement des choses.
Le terme officiel un petit peu, c'est l'érosion culturelle qui était provoquée par le tourisme de masse, parce que les habitants locaux quand même voient bien la possibilité de gagner de l'argent en proposant de services aux touristes, et ils essayent d'être le plus efficace, le plus adapté aux itinéraires imposés par les tour opérateurs, par les agences de voyage. Donc là, ils ont par exemple une tension de raccourcir la durée de leur rituel au quotidien pour être plus attractive et plus efficace aux touristes de masse, parce qu'on sait très bien que ces itinéraires sont basés sur le principe « il faut qu'on voit le plus de choses possible pour le moins du temps possible. Ouais. » Donc là, on essaye de raccourcir tout pour gagner de l'argent et pour présenter quelque chose qui est entre guillemets local, culturel, traditionnel, mais forcément, c'est pas le cas. Et en même temps, il y aura une des conséquences, une choc culturel quand il y a des habitants qui sont confrontés aux touristes qui viennent des pays très très développés, qui ont un bon standard de la vie, qui ont certaines libertés par rapport aux traditions locales. Donc là, par exemple, la façon de s'habiller ou l'usage d'alcool ça peut beaucoup perturber les
façons
traditionnelles de la vie. Voilà, donc il pourra avoir des délicats perturbations sociales.
Le tourisme durable, c'est aussi gérer ça pour qu'on n'ait pas trop ce type de problème, que les gens soient accompagnés là-dedans.
Tout à fait, la clé, c'est la sensibilisation, justement, avant d'arriver des touristes sur le lieu de la visite. Il faut leur bien expliquer de quel lieu il s'agit, décrire un petit peu la culture locale et expliquer quelles sont, entre guillemets, les règles de la communauté locale, pour les respecter, pour ne pas déranger et pour essayer de les comprendre.
Alors justement, les touristes en général, quand ils partent en vacances, ils sont fatigués de tout le bruit qu'ils ont tous les jours dans leur quotidien, de toute la pollution, etc. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment un moment de repos avec une bonne qualité de l'air, des transports et des déplacements qui soient doux et non polluants plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire justement à ce niveau-là dans les villes pour bien organiser les choses pour accueillir correctement les touristes?
C'est très important de mettre en place un transport commun de la ville jusqu'au lieu, jusqu'au site naturel. Et donc là, ça va éviter qu'un touriste prenne sa voiture, qu'il soit encore dans l'embouteillage, qu'il soit encore énervé comme dans sa lieu d'habitation. Mais plutôt avec un transport en commun, on diminue la pollution et la fréquentation de voitures. Donc c'est très très important. Ensuite, je crois que les hôtels, les lieux d'hébergement, les hostels, les auberges de jeunesse, différents lieux d'hébergement pourront aussi mettre en place des règles pour économiser l'énergie, pour économiser de l'eau, pour sensibiliser de l'eau. Donc toutes ces petites choses pourront déjà contribuer à un changement de comportement au quotidien.
Et par rapport à ça, en Corse, on a seulement 20% de bétonnage. Et dans la région PACA, dans 50 ans, si on continue au rythme actuel, on n'aura plus du tout, même pas un mètre carré de surface agricole à cultiver. On sait bien qu'avec le tourisme, y a toute cette pression foncière, des hôtels qui veulent se créer, etc., qui demandent justement à bétonner de plus en plus. Comment on peut créer une balance et faire en sorte que finalement ce bétonnage soit limité, parce que ce que les touristes viennent chercher, c'est pas non plus que ça. Ils sont contents de voir des calanques non bétonnées pour le moment, donc...
Oui, plutôt en fait il faut changer la logique de pensée, parce qu'on n'a pas forcément besoin de bétonisation pour pouvoir profiter de l'eau. Si on met en place une architecture qui est adaptée bien au milieu naturel, ça pourrait être très bien envisagé, en fait, un lieu très tranquille qui offre qui représente une offre très correcte pour des touristes, parce que avec le béton, en fait, on incite plutôt la consommation et on est plutôt agité, on n'arrive pas à se reposer comme dans un lieu vraiment naturel, avec une qualité de l'air, avec une qualité avec un site propre. Exactement, c'est en nature, en fait, c'est un lieu d'éducation qui aussi nous donne le pouvoir de se reposer, d'être calme, plus calme que quand on est dans une ville, dans notre lieu d'habitation quotidienne.
Et par rapport aux calanques, il y a 2 millions de visiteurs par an qui viennent voir les calanques. Est-ce que le projet de parc national des calanques qui est en cours, est-ce que ce serait une bonne chose pour aller vers un tourisme durable ?
Je pense que oui, parce que la création, le label du parc national va déjà pouvoir contrôler le flux touristique et essayer de l'orienter vers les espaces qui ne représentent pas le cœur du protection du parc. Donc c'est déjà envisagé dans les zones d'interface ville-nature de créer des espaces de loisirs, d'activités où les touristes et les visiteurs pourront profiter sans déranger la biodiversité.
Et toi, Marina, alors à l'IML, vous organisez beaucoup de balades, justement, pour, par exemple, c'est sur la route de l'eau, c'est ça ? Vous organisez des balades qui permettent... Enfin, tu vas peut-être nous expliquer,
oui.
Toi.
Cette année, on a mis en place un programme de balades qui s'appelle « Sur la route de l'eau ». Il est soutenu par l'Agence de l'eau et la région PACA, en partenariat avec le Musée d'histoire naturelle de Marseille. Son but est de sensibiliser des habitants de Marseille, des visiteurs et des touristes sur l'importance de l'eau à Marseille. On a mis en place 3 balades. Une, c'est à la découverte de plus beaux monuments de l'eau, qui se fait autour du Palais Longchamp, au parc du Longchamp, parce que là, on essaye de présenter aux participants comment l'eau est arrivée à Marseille et son importance, parce qu'il faut savoir que la fondation de Marseille, la ville de Marseille est fondée par les marins fonciens, justement parce qu'ils ont découvert des sources de l'eau douce, ce qui était très important pour fonder une ville pour vivre. Ensuite, si Louvain nous était compté, se fait avec un partenariat avec Madame Fanny Descaries, qui est une conteuse de Marseille, qui nous représentera Louvain, le paysage qui existait avant et le paysage aujourd'hui, mais au travers des contes et des légendes. Cette balade se fait au parc Borély. On essaye d'allonger le chemin à côté du Louvain pour présenter en fait son bassin et le paysage qui existe aujourd'hui, et de faire une comparaison avec le paysage qui existait avant.
Et la troisième balade,
c'est ouais. au plus près de l'eau, elle se fait aux îles du Frioul, justement pour montrer comment on vit sans l'eau forcément sur une île, et quelles sont des adaptations de la flore surtout et de la faune dans une île où l'eau en fait douce n'existe pas forcément, où c'est très difficile de l'amener jusqu'aux îles.
Et qui peut participer et comment on fait pour participer
Les balades s'adressent à tout public, donc même pour des enfants à partir de 3 ans jusqu'à, je dirais, 60-70 ans, parce que ce sont des balades d'une heure, deux heures ou une demi-journée en Frioul. Le chemin est assez facile et on va profiter de beaux discours de notre intervenant.
Voilà, en tout cas en ce qui concerne le tourisme durable, du coup, c'est quand même, ça va tout à fait dans le sens de la question du jour. Et l'an dernier, vous aviez fait aussi des balades en barquette traditionnelle de pêche, où vous racontiez des contes, c'est ça ?
Oui, l'année dernière, on a mis en place un partenariat avec Localanque, qui dispose des barquettes traditionnelles de pêche, barquettes marseillaises. Donc on a fait une balade en barquette avec la conteuse, toujours Madame Fanny Dakari, bien fidèle, au Vieux-Port, où on a essayé de raconter des légendes et des histoires sur la fondation de Marseille, sur les Marseillais, pour présenter en fait l'esprit de la ville. Et on voit bien que là, on a employé des acteurs locaux pour nous présenter au mieux Marseille et sa vie.
Bon, merci beaucoup Marina. Et pour nos auditeurs, peut-être que vous vous êtes posé la question, mais ce bel accent, c'était un accent serbe. Voilà, et c'était un plaisir de te recevoir pour parler de ce thème qui est super important, justement, puisqu'on entre dans la saison. Merci à tous et à bientôt sur l'émission Demain la Terre.
La première destination touristique en France. Quand on compare ça avec le fait que l'Organisation touristique mondiale prévoit en 2020 dépense à peu près ou font à peu près 700 tonnes de déchets par an. Et à la faisabilité économique, c'est-à-dire qu'il favorise une répartition des bénéfices qui est juste, qui est répartie.